bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale. Bienvenue avec Leïla Kadrou-Deldi.
Bonjour à tous.
Marina Rollman.
Bonjour Daniel.
Daniel Morin.
Bonjour Marina.
Tom Villa. Bonjour. Tout à l'heure, Tanguy Pastureau. Et nos invités, bonjour. Camille et José d'ailleurs.
Bravo.
À 21h ce soir sur France 3, le capitaine Marlowe est de retour avec Une voix dans la nuit. José Dayan, ce capitaine Marlowe, quand il passe à la télé, fout toutes les audiences en l'air de toutes les autres chaînes. Est-ce que vous regardez?
Oui.
Est-ce que vous regardez la concurrence avant? Si vous vous dites, bah, voilà, contre qui on tombe?
Dis, oui, il y a quoi ce soir? Oui, bien
là,
sûr.
Ouais. C'est vrai.
Et je regarde aussi mon film, non pas par narcissisme, mais je me dis, on sait jamais s'il y a une panne d'émetteur, tout ça. Je suis un peu superstitieuse, donc je me dis...
Au moment de la diff, vous êtes devant votre télé.
Oui, après je regarde plus mes films, jamais, mais le soir de la diff, je le regarde.
D'accord.
Vous vous rendez compte que maintenant, ce sont les autres qui regardent s'il n'y a pas Marlowe qui est programmé en face?
Exactement. Mais voilà, ça c'était amusant, oui.
Même les blockbusters américains, tout le monde se dit « Waouh, Capitaine Marlowe !»
Oui, c'est ça.
Débarque avec, et on va en parler de cet épisode avec Jeanne Balibar, Benjamin Biolay, Camille ici présente. Il y a également Stéphane Debac, Victor Belmondo, Emmanuel Michelet, Pauline Discrit, Micha Lesco, Claudia Fortunato, Armel Casdepas et Camille Garcia, entre autres. Tout ça sous la direction de José Dayan avec, c'est autour d'une émission de radio, en plus. Ça tombe bien, parce que
Une voix dans la nuit.
C'est Jeanne Balibar qui était l'animatrice.
Et c'est Jeanne Balibar qui est cette animatrice de nuit qui recueille les âmes désespérées.
Voilà. C'est ça, les confidences, les confidences au téléphone. Et quant à vous, Camille, vous débarquez, c'est la première fois que vous êtes dans le Capitaine Marlowe?
Oui.
Ah oui.
C'est toujours des premières fois, non?
Dans le Capitaine Marlowe, en général, sont toujours des premières fois. D'ailleurs, dans un Capitaine Marlowe que j'ai tourné tout de suite après, il y avait Tom Villa.
Et donc c'est la première fois, sous-entendu, la dernière, Tom. T'as compris?
Oui, mais on le sait.
Mais la dernière dans Marlowe, mais pas la dernière dans ma vie, car j'ai d'autres projets, dont un avec Tom dont je lui parlerai dans peu de temps.
Eh ben, allez, ouais,
punaise, t'étais pas au courant, le scoop.
Mais non.
Purée.
Oh, bah, le scoop purée. Énorme.
Maintenant, tu vas pouvoir négocier à la hausse.
Bah non, parce que déjà, on va prendre 10% de commission, parce que ça s'est fait dans la bande originale.
Okay. Il est fort, le producteur, Nagui. Il est fort.
Et on va parler avec... Alors, Camille, vous êtes l'assistante d'un photographe... spécial, on va dire.
Louche.
Ouais, louche.
Mais qui a la cote?
Pardon?
Il est pervers.
Voilà.
Un photographe, quoi.
Ah oui, ce que j'ai.
Enfin.
Elle est l'assistante de Benjamin Biolay, voilà. Qui n'est pas pervers. On parle du personnage.
Allez, on va déjà poser des questions concernant, par exemple. Je sais même pas par qui. Ah, c'est par Camille. Allez. Lors du tournage du film Elle s'en va d'Emmanuel Berco, quelle faute de comédien débutant commet Camille lors d'une scène de repas?
Elle regarde la caméra.
Non, elle a mangé.
Exactement.
Ah, faut pas manger.
Non.
Exactement.
Quand tu l'as fait 25 fois.
Il y avait une prise avec des spaghettis. En fait, la première prise.
C'était pas des spaghettis, c'était, je me souviens très bien, c'était des pommes de terre sautées.
Des patates. Et donc vous mangez.
Mais ça se mange plus facilement que les spaghettis. Parce que c'est, hop, une, deux, trois, quatre, cinq. Et puis ça a duré 3 heures.
Et donc à la septième prise, impossible de manger des patates. Quoi.
Ouais, ça devenait compliqué.
Mais moi je suis pas d'accord. Parce qu'en effet, la plupart du temps, c'est compliqué quand il y a des scènes de repas que d'ailleurs je déteste filmer parce que s'il faut les regards pas chanter, c'est très finalement contraignant. Mais à part le fait que ma fiancée me dise toujours faut pas parler la bouche pleine,
oui,
je trouve que quand un acteur est à table et qu'il ne mange pas, il y a quelque chose de très artificiel.
Mais mangez moins peut-être.
Oui, c'est plus ça.
Les demi pommes de terre, moi, je viens Camille, des quarts.
On est là pour parler de Marlowe, mais j'en profitais pour parler de Vargas. Sûr. Je viens de tourner une série de deux films autour du dernier livre de Vargas qui s'appelle Quand sort la recluse, qui passe mercredi.
Nous recevons Jean-Anglade pour en parler.
C'est très bien. Donc, merci beaucoup. Qui passe donc mercredi sur la 2 et l'autre mercredi, parce qu'il y a deux épisodes.
Et il y a la garbure.
Il y a la garbure, mais il y a surtout un personnage qui est interprété par Thierry Ancis, qui mange des spaghettis et qui les mange vraiment pendant toute la séquence. Et parce qu'il est très talentueux, c'est formidable.
D'accord, donc la fameuse scène de repas où il faut quand même relativement manger.
Je pense aussi.
D'accord. Concernant José, d'ailleurs, justement, pourquoi son papa décide de l'appeler José.
Non,
c'est lui qui l'a trouvé.
Ah non, est-ce qu'ils ont bossé ou pas? Pourquoi s'appelle-t-elle José?
En hommage à.
Oui.
Grand-père?
Non.
José Garcia?
Non.
Figure, quelqu'un de connu?
Ah oui,
politicien?
Non,
chanteur.
Politicien.
Joseph.
Alors on est plus
Joseph,
en chant.
Joseph, on est dans du religieux.
Joseph Joffaut?
Non.
José.
On est dans du.
Du foot ou pas?
Non, du. Du,
non, mais
du,
il propose
du,
des trucs épouvantables.
Du culte.
Politicien, du foot, du tout.
Du culte. Du culte. Allez, c'est culte, c'est artistique.
Un petit indice, un petit.
Un petit indice?
Ouais.
Bizet.
Joseph.
Quoi? Carmen.
Ah, c'est pour l'opéra, un personnage d'opéra?
Exactement.
Ah, d'accord.
Eh ouais, dans Carmen.
Alors, oui, c'est
vrai qu'il y avait un.
Don José, Don José.
Non.
Il y a le Don José de Carmen.
C'est le héros de Carmen.
Ah, mais Don José, ouais.
Eh oui, mais alors donc, c'est le héros, c'est pas l'héroïne, justement. Donc, il passe de José et.
Eh bien, oui, enfin. De toute façon, moi j'aurais préféré être quitte à être, parce que mon père chantait Carmen le soir où je suis né au Capitole de Toulouse, mais quitte à finalement avoir le
Et il jouait Don José, pardon?
Non, il jouait Escamillo.
D'accord.
Parce que c'était un baryton basse. Mais quitte à avoir un nom issu de Carmen, j'aurais préféré m'appeler Carmen, non pas parce que je trouve Carmen soit un beau prénom, parce que je déteste définitivement le caractère de Don José. Je le trouve absolument d'une lâcheté absolue, en contradiction permanente avec ceux qu'il aime. Parce que quand on aime Carmen, on sait pourquoi on l'aime, et on la tue pas parce qu'elle est elle. Donc il est con, quoi.
Oui, mais c'est un.
C'est un peu comme mon personnage dans le film, finalement.
Mais voilà! Mais je ne pouvais pas dire ça, ma chérie. Mais non, mais bon, vous.
Alors...
C'est pas exactement pareil dans le film.
On va en reparler dans quelques instants. Ouais. Qu'a fait Camille, puisqu'on parle d'émissions aussi de radio dans cette série du Capitaine Marlowe, Une Voix dans la Nuit. Et qu'a fait Camille la première fois qu'elle s'est entendue à la radio?
Elle a coupé?
Non.
Elle a dit plus fort?
Non.
Elle a appelé quelqu'un?
Non.
Elle a chanté en même temps? Elle a chanté, elle a doublé la voix?
Elle
s'est trouvée
bien.
Non.
Elle est allée demander genre au tabac en bas ou au resto d'allumer? Ou elle est allée demander dans un endroit public?
Non.
Je ne le sais pas moi-même. Regardez.
Pas.
Elle a mangé des patates.
Juste avant, il y avait Céline Dion. Il y avait Céline Dion et après, il y a eu votre disque. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a eu Céline Dion.
Ouais.
Elle a gardé la désannonce du disque de Céline Dion, lançant sa chanson.
Quand elle a entendu Céline Dion, elle a dit « Ah tiens, je chante bizarre. »
Non. Non, non, c'est la première fois que tu t'entends la radio. Il faut se mettre à sa place quand même.
Je m'en souviens.
La première fois.
Pleures,
pardon. Exactement.
J'ai fait quoi?
J'ai pleuré.
J'ai pleuré, d'accord. Non, mais je me suis souvenue de cette première fois, mais après, pleurer, j'ai dû vous la raconter.
Vous avez dit ça dans votre travaux.
Non, vous avez dit que ça vous avait très extraordinairement ému de savoir que énormément de personnes allaient vous entendre, et après avoir entendu la chanson, vous avez dit je m'en foutais. Il y a eu un lâcher-prise total, quoi. Non, mais
je m'étais habituée. C'est incroyable de se dire qu'en même temps que les autres, on entend. C'est incroyable.
Et c'est pas un aboutissement non plus. On passe à la radio, ça veut pas dire que tout est.
C'est un début quand même. Non, c'est important.
C'est un bon signal.
Ouais.
D'accord. Vous vous souvenez de la radio? Sur quelle radio c'était?
C'était Courtoisie.
Ok.
Allez, France Inter.
Mais non, c'est faux. Il y a pas de Céline Dion sur France Inter.
Mais
donc
oui,
ça
mais
peut...
qu'est-ce qu'elle, cette radio?
Je sais pas, moi, écoutez. Café, non, ça c'est fait. Qu'est-ce que la grand-mère de José Dayan lui préparait au petit déjeuner? Petit déjeuner.
Tartine
de Saint-Doux?
Non.
Quoi?
Du Saint-Doux?
Non.
La soupe?
C'est plutôt salé, oui.
C'est de la graisse de canard, c'est quoi? C'est le sud-ouest, donc c'est un peu.
Non.
C'est un truc un peu gras.
Sa grand-mère n'est pas du sud-ouest.
Ah.
Et je déteste ce sud-ouest.
Non.
Ah, d'accord.
Soyons clairs.
Merci. Moi, j'ai des ancêtres là depuis le 15e siècle.
Mais je suis né à Toulouse aussi, mais je n'aime pas la cuisine du sud-ouest.
Ah, c'est autre chose.
Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et les grands mousquetaires.
C'est autre chose.
C'est quelque chose d'un peu.
Et Claude Nougaro.
C'est gras.
La choucroute.
C'est gras.
Et Claude Nougaro, c'est mon père et ma mère qui ont appris à lire à Claude Nougaro. Et quand je suis né à Toulouse, c'est la grand-mère de Claude Nougaro, maman Cécile, qui a accouché ma mère.
C'est une belle histoire, j'ignore.
Parce que Pierre Nougaro, qui était un grand chanteur d'opéra, était le professeur de mon père.
Voilà. Qui jouait dans Carmen, d'où José.
Escamillo, voilà. Ouais.
Voilà, c'est ça.
De quel pays?
Italienne.
Des pâtes, de la pizza?
Ouais, exactement.
Ah ouais.
Au petit déjeuner, des spaghettis.
Absolument, napolitain. remarquée par ma grand-mère. Elle me disait, qu'est-ce que tu veux? Alors, moi, j'avais une mère qui était avant l'heure écolo. Enfin, bon, il fallait que tout
vous
soit
regardez.
Fait. Non, mais oui, enfin, voilà, oui. Bref.
Et le vous incarnez l'écologie pour faire
J'en suis ravie.
Quand j'étais chez ma grand-mère, elle me disait vers 9h du matin, qu'est-ce que tu veux? Allez, facciamo due spaghetti. Et c'était génial.
Facciamo spaghetti, c'est on va faire
des spaghettis.
On va faire des spaghettis.
Et j'adorais ça.
Parfait. Voilà. Concernant cette fois-ci Camille, dans quel genre d'endroit, dans quel lieu adore-t-elle chanter ?
Cabine téléphonique.
Les églises, les lieux de culte, dehors, dans la forêt,
exactement.
Dans la nature.
Exactement, plein air.
Mais partout, capitaine. Partout, tout ce qui a été dit est juste.
C'est capitaine Marlowe.
Non, vous avez dit j'aime que le plafond soit le ciel. C'est joli comme expression aussi.
Oui, c'est vrai. C'est joli, mais...
Vous avez dit ça dans Chasse et pêche, en 92.
Vous avez des lectures formidables, vous.
Écoutez, je vous donnerai les coordonnées de mon libraire.
Il a été chez le médecin ce matin.
Il faut dire, Camille, qu'après vos concerts, je suis venue vous voir récemment, le concert ne s'arrête pas dans la salle, vous sortez de la salle, vous entraînez le public avec vous déambulez dans le quartier à Paris.
Parfois.
Parfois, mais en tout cas, ce soir-là, c'était ça. Et c'était assez fou.
Ah oui, je ne chante pas que sur scène, je chante tout le temps. Je chantais... dans beaucoup d'endroits, avant de monter sur scène aussi. Ouais.
Quels sont les deux péchés mignons ou les deux addictions? Ça dépend de José d'ailleurs.
Oh. Le cigare.
Oui, ok. Alors l'autre.
Bravo,
l'amour.
Tom.
L'amour.
Non.
Oui,
non,
le portable.
C'est un objet.
Le téléphone, non.
Un objet.
Le bilboquet.
Non.
C'est lié à la radio, les
livres.
Non.
Qu'est-ce qu'on peut...
La caméra.
Les lunettes, le...
Un crayon, un papier, un calepin.
Ah, écrire aussi aux plumes.
C'est un objet et elle, comment dirais-je, elle en a eu plusieurs, voilà. Elle en a eu plusieurs.
Des bagnoles.
Des voitures.
Exactement, mais alors donnez-moi une marque.
Alors,
des
500.
Ferrari.
Non, on va rester sur voiture, tu as raison. Okay. Jaguar, vous êtes dingue de Jaguar.
Ah ouais,
oui, alors attendez, j'étais dingue de Jaguar.
Jusqu'à
Jusqu'au moment où Jaguar était Jaguar.
Ah, quand ça a été racheté, vous voulez dire, ça a perdu son
Ford
âme.
Ou je sais pas quoi, ça n'a plus de sens.
C'est devenu un grand groupe, oui.
Voilà. Alors, comme c'est devenu un groupe, que Jaguar n'a plus son charme, ni même ses défauts, parce que Jaguar tombait en panne tout le temps, mais c'était tellement merveilleux.
Ça chauffe.
C'est une vraie voiture anglaise, bon. Mais de toute façon, Jaguar n'étant plus Jaguar, plus de Jaguar. Et Anne Hidalgo étant maire de Paris, plus de Jaguar. Donc, évidemment, une Smart. Merci Anne Hidalgo.
Camille, quelque chose à dire?
Merci Anne Hidalgo.
Ah bah oui, parce que vous êtes à bicyclette et à pied. Et voilà, chacun son truc. Malgré vos graves défauts, une sympathie extrême pour vous.
Alors, Eva est une animatrice de radio jouée par Jeanne Balibar. Elle a juste une voix dinguissime.
Ah ouais. Elle a une voix magnifique.
Ah ouais. Ah ouais, non, elle a une voix.
Phrasée.
Ouais, c'est ça. Il y a le tempo, il y a la voix.
Il y a le débit.
Et c'est totalement crédible dans la voix de la nuit qui
les
accompagne.
Mots bleus.
Exactement. Cette émission de radio qui s'appelle Les mots bleus. Clin d'œil à l'ami Christophe avec
Mais, justement, j'étais très très heureuse que Christophe accepte qu'on prenne comme indicatif de cette radio imaginaire les mots bleus. Et dans le film, il y a donc les mots bleus et c'est très beau.
Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule.
Alors dans sur cette émission de radio, on entend une voix, enfin plusieurs voix qui viennent se confier, comme ça a été tradition, que ce soit ici à Inter, les voix de la nuit aussi sur RTL, Europe 1, souvent comme ça, il y a des confidentes qui écoutent.
En fin de soirée.
Exactement, et là, il y a une jeune demoiselle qui appelle, en larmes, paniquée, et c'est le début, tout début de l'intrigue, entre guillemets, on entend une détonation. Et on retrouve un corps. On a le suicide ou l'accident ou le crime était. C'est de là que démarre l'enquête. Vous écrivez enfin du moins ce sont des personnes qui écrivent pour vous, José Dayan. Mais est-ce qu'elles écrivent ces personnes sur vos indications? Est-ce que vous donnez clés, des codes?
Oui, non. Un, je n'écris pas. Ça, soyons clairs. Les codes, oui, bien sûr, parce qu'il y a un ADN particulier pour Marlowe, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de hiérarchie, qu'elle n'a pas de famille, qu'on ne sait pas d'où elle vient.
Une sorte d'électron libre et ingérable.
Voilà, ça c'est déjà la base, si vous voulez. Et puis, moi je souhaite que dans les histoires qui occupent Marlowe, il y a toujours une raison, comment dire, le personnage, l'héroïne, le guest, ne soit pas un personnage détestable. Il peut avoir des défauts, parce que personne n'est parfait, mais qu'il y ait toujours quelque chose au niveau du destin, du... Vous voyez, comme dans une tragédie. Et à la fois, il y a beaucoup d'humour dans Marlowe. Et là où j'interviens, c'est que comme ce qui m'importe en particulier, c'est le casting et les acteurs, le choix des acteurs ou des actrices, c'est quand j'entrevois un texte qu'on me propose où il y a la possibilité d'avoir, par exemple, Jeanne Balibar, Camille, Isabelle Adjani dernièrement, Cadmerade ou je ne sais qui encore, évidemment, je demande à ce qu'on développe beaucoup ce personnage pour que l'acteur accepte de venir, pour qu'il ait quelque chose à jouer, bien
pour
sûr.
Pour qu'il ait du biscuit. Alors justement, quand vous avez reçu le scénar, Camille, d'abord, vous avez été... quelle a été votre première réaction ? Celle d'une lectrice qui regarde une intrigue ou celle d'une comédienne qui regarde ce qu'elle a justement à faire, comme disait à l'instant José Dayan ?
Les deux. J'ai vu, j'avais pas beaucoup de texte, mais j'ai tout de suite vu que j'avais, que sans moi, le film n'existait pas.
C'est
vrai. Assez
flatté. C'est vrai en plus.
Sans moi, Marlowe ne débarque pas.
Absolument. À Boulogne.
Vous avez déjà vu beaucoup de Marlowe avant ou vous êtes penché?
Écoutez, non, j'ai pas la télé. J'avais entendu parler de Marlowe. Je connaissais pas Marlowe.
Donc même qui n'a pas la télé entend parler de Marlowe.
Ah bah oui.
Voilà.
Donc et de voilà, et de Corinne Maziro que l'on retrouve également
dans Vargas.
Dans Vargas.
Mais en vérité Vargas, j'ai connu Maziro sur
sera,
Vargas.
Et ça sera mercredi le Vargas.
Demain.
Sur France 2.
Voilà. Maziro, j'ai connu sur Vargas. Parce que je cherchais une actrice pour jouer Violette Rotencourt et honnêtement, j'avais pas d'idée. Alors que je fais toujours mes castings. Mais là, je voyais pas qui. Et donc, je me suis adressé à un casting qui s'appelle Nicolas Ronchi et qui m'a présenté Corinne Maziro. Et voilà. Et j'ai compris qu'elle avait une personnalité hors norme. Et on a continué d'abord à l'intérieur des Vargas. Et puis après, puis je lui ai proposé ce Capitaine Marlowe.
Il y a beaucoup d'improvisation sur le plateau, Camille ?
Avec elle, oui.
Avec Corinne, oui.
Oui.
Moi, j'ai pas improvisé.
Dans le texte, oui, bien sûr.
C'est-à-dire que les vannes, les jeux de mots...
Ouais,
les...
c'est elle, ça.
Ça, c'est elle.
Ouais, je lui dis un truc sur les vaches laitières, paf, elle l'a sortie. Hein.
Ouais. Ben voilà.
Elle cherchait, elle disait, qu'est-ce que je peux trouver là ? Un truc sur le lait de vache,
pardon,
vas-y.
Mais comment faire plusieurs prises et faire de l'improvisation ?
On ne fait pas plusieurs prises avec moi.
Ah d'accord, c'est-à-dire ouais. la première, elle est
ouais.
en boîte.
En général, oui.
D'accord.
Ça doit être angoissant du coup, Camille, de se dire il n'y a qu'une prise.
Non, mais attendez.
J'étais pas au courant.
c'était juste excellent. Les acteurs adorent tourner vite. Voilà. Parce qu'il y a une énergie, parce qu'on s'ennuie pas, parce que je sais qu'on est dans le film, autrement on va dans sa caravane, on est au téléphone, on a son conseiller fiscal qui vous dit, tiens, il y a une saisie sur ton compte, enfin bon, bref, on est en merde.
Elle a regardé Tom Villa à ce moment-là.
Ouais, ouais, c'est marrant, ouais, enfin bon, bref.
En revanche, quand on est complètement dans l'énergie du tournage, il y a quelque chose qui fonctionne, comme si on faisait, je ne sais pas, moi, une sauce hollandaise, voilà. En revanche, si l'acteur ou l'actrice me dit « Non, attends, j'ai envie d'une autre prise
oui. »
ou s'il y a un problème technique, ou si moi, je considère que la prise, finalement, n'est pas ce que je veux, on peut en faire deux, trois.
D'accord.
C'est l'évidence. Mais grosso modo, on ne fait pas beaucoup de prises.
Énorme succès pour Capitaine Marlowe. Cette fois-ci, c'est une voix dans la nuit avec un casting très musical, finalement. Quand on voit Jeanne Balibar, Benjamin Biolay, Camille, on a des sons, on a des tonalités, on
moi,
a des ambiances.
Très très heureuse d'avoir ce casting parce que en vérité Camille c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui je trouve un talent extrême et je l'ai connue à Angers grâce à Jeanne Moreau parce que Jeanne Moreau était au Festival d'Angers, j'étais là avec elle et elle m'a dit écoutez j'ai entendu une chanteuse extraordinaire, c'est Camille, il faut absolument que vous l'écoutiez, elle est géniale, voilà. Alors évidemment Jeanne Moreau me disant ça, j'ai écouté Camille, je me suis dit, finalement, Jeanne a raison. Puis il se fait qu'hélas, Jeanne est disparue. Et j'ai eu envie de mettre un message à Camille en lui disant, voilà, si vous avez un moment, voyons-nous. Je voulais juste vous dire à quel point Jeanne vous aimait. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés.
Voilà. Ah, c'est joli.
Sous l'égide de Jeanne.
Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade pomme préparée a cappella.
idéalement, Camille, vous aimeriez mener de front ces deux carrières, chose que vous faites déjà, mais à un rythme très personnel. On a le sentiment qu'il n'y a pas d'urgence à tourner plein de séries ou plein de films, qu'il n'y a pas d'urgence à faire plein d'albums.
Mais surtout, c'est pas moi qui décide de tourner dans les films.
Votre agent peut le faire comprendre.
Oui, il le sait. Je l'ai souvent. On s'appelle souvent avec Christopher Robin, mon agent de cinéma. Après, quand je suis en tournée, il sait que je suis en tournée. Ceci dit, j'ai tourné Marlowe en fin de tournée. C'est allé très bien avec le personnage parce que j'étais au bout du rouleau.
Ça aide. Et dans mon plan de travail, j'ai tenu compte
bien
de
sûr.
Votre disponibilité, bien sûr. Évidemment, parce que je voulais absolument tourner avec vous.
Ça, c'est l'avantage. Merci. C'est l'avantage d'être productrice aussi, c'est-à-dire d'être la patronne sur le tournage. Vous décidez de non seulement de qui travaille avec vous, mais aussi de comment et de quand.
Voilà, attendez.
Vous dépendez de personne, un peu comme comme Marlowe.
J'ai besoin de personne à Harley Davidson.
Vous
non.
êtes Marlowe.
Ouais, enfin bon. Non, mais je vais vous dire, c'est pas tout à fait vrai. Bien sûr qu'il y a un avantage incroyable à être producteur, parce qu'on peut décider d'avoir une part, comment dire, de bénéfice moindre, si on a envie d'avoir tel acteur, tel décor, etc., etc. Et si on veut donner l'avantage à l'artistique. Mais en ce qui concerne et le choix des acteurs, et le casting, et le plan de travail, j'ai toujours été comme ça, même quand j'étais pas productrice, je considère que ça fait partie du travail de metteur en scène.
Ça sera évidemment, Capitaine Marlowe, un énorme succès, c'est un inédit ce soir, donc sur France 3 à 21h, Tom Villa, c'est carton annoncé.
Et Vargas
Non, mais demain, on va en parler.
Non, mais c'est vrai que Capitaine Marlowe, ça fait 6,5 millions de téléspectateurs, et encore, quand c'est pas en forme, France 3 est resté sur le cul, hein, il pensait pas qu'à 21h, il pouvait y avoir autant de gens pour la télé.
Plus.
Non mais c'est vrai, c'est bon. Non
mais c'est vrai. Malade.
D'ailleurs, les autres chaînes le disent. Vous l'avez dit, Nagui, quand il y a Capitaine Marlowe, on sait qu'on va se prendre une branlée. Ouais. C'est ça qu'ils se disent. C'est pas de la vulgarité gratuite. Ils disent ça comme ça, d'ailleurs. Donc là, je peux le dire avec une certaine assurance. Oui, ça va être un succès. Non, c'est vrai, tu te rends compte que maintenant France 3, ils commencent à faire la fine bouche. À 5,7 millions, ils sont presque déçus. Alors, en France, ça sert à rien de t'embêter à foutre des dragons comme dans Game of Thrones ou des zombies comme dans Walking Dead. Tu prends une chapka, un Range Rover pourri. Tu fais mieux qu'un match de l'équipe de France de foot. Non mais rien que la semaine dernière, 6,9 millions. Comme quoi, on dit le duo Mbappé-Griezmann, il est imbattable. Bah bouge pas. Il y a Dayan Maziero qui arrive, mais t'es protège bien mon pote, parce que tu vas sortir sur la civière.
Ouais. Ça tacle.
Non mais si on regarde le programme télé de ce soir, par exemple, face à Marlowe. Alors, TF1, L'Arme Fatale.
L'Arme Fatale, oui.
Bon, a priori, L'Arme Fatale de TF1, c'est pas cette série. France 2, le reportage d'investigation, c'est Narcotrafiquant. Donc on notera sans Élise Lucet. Quand faut courir après Rachida Dati, il y a du monde, mais quand faut gueuler sur trois Colombiens armés jusqu'aux dents, il y a plus personne. France 5, enquête de santé sur Alzheimer, l'émission faite pour des gens qui vont pas la regarder. M6, recherche appartement ou maison. Bon, une fois de plus, Stéphane Plaza va encore trouver des maisons avec une piscine à des étudiants en médecine qui ont 700 € de budget. C8, Jumanji, le film qu'on a vu 1000 fois où le jeu de société devient réel, machin. W9, Pirates des Caraïbes, on l'a vu 1000 fois aussi, Johnny Depp déguisé en Renault, le chanteur. TMC, 90 minutes enquête, t'as envie de leur dire, vous pourriez la faire en 45, on gagnera du temps, mais après c'est du mauvais esprit. Donc oui, a priori, Marlowe me paraît très très bien embarqué. En plus, on est ravis de vous recevoir, José et Camille. Comme par hasard, vous venez pour un épisode où les guests sont vous, Camille, Jeanne Balibar et Benjamin Biolay. Pour Nagui, c'est pas un film, c'est un taratata. Allez, bonne émission.
C'est un bon film.
Ça s'appelle Nagui, la bande originale.
Petit clin d'œil, évidemment, qu'on devait faire à Christophe, qui est le générique de cette émission de radio qui s'appelle Les mots bleus, et également le duettiste avec Camille.
Petite fille du soleil, le matin n'attend pas.
Petite fille du soleil,
album qui n'est pas encore sorti, Camille.
Produit faites... par Clément Ducol.
Vous faites le duo. Ouais. Vous faites le duo avec Christophe. C'est lui qui vous a contacté, qui vous a proposé la chanson, ou il vous a contacté et vous avez dit, moi, dans ton répertoire, j'aimerais bien Petite Fille du Soleil.
Alors, ça fait très longtemps qu'il me contacte, que nous nous contactons. Et cette chanson.
La nuit, généralement, aussi, Christophe, c'est la nuit.
Oh, hein. Pas que, non, il s'adapte. Avant. Enfin, il est beaucoup venu à mes concerts. Ça fait longtemps qu'il me suit et que je le côtoie et que j'aime sa musique. Alors, Petite Fille du Soleil, je l'adore, cette chanson. Et je sais pas comment ça s'est fait. Non, on s'est même pas concerté et l'a proposé.
Vous êtes mis d'accord là-dessus, direct, ouais.
Ouais. Comme pour le prénom d'un enfant.
Et travailler, c'est joli. Et travailler avec des caractères, parce que ce soit José Dayan ou que ce soit Christophe, ce sont des caractères, ce sont des artistes qui savent exactement
ouais, ils sont,
ce
qu'ils
veulent.
Ils ont le mérite d'être clairs.
Ouais, c'est ça. C'est ouais. La première qualité, c'est la franchise.
Ah ouais, ils sont intègres, ils sont qui ils sont, ils ne négocient pas. J'aime bien ça. Ils sont très délicats, l'un comme l'autre d'ailleurs.
Vous êtes pareil ?
J'espère, j'y travaille.
Alors, ce Capitaine Marlowe, avec cette série, cette voix dans la nuit, vous voulez construire l'intrigue, c'est ce que vous demandez à vos auteurs, d'une manière assez particulière, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des rebondissements, il faut qu'il y ait...
Oui, il faut qu'il y ait des actes,
il y a des règles,
si vous voulez,
ouais.
dans la construction, bien évidemment. Mais non, moi, en tout cas, personnellement, encore une fois, ce qui m'importe, c'est de faire écrire des rôles où on puisse avoir la possibilité d'inviter en même temps Camille, Jeanne Balibar, Benjamin Biolay, enfin voilà. C'est-à-dire que chaque personnage a tout de même quelque chose à faire et il trouve un intérêt artistique. Donc moi, si vous voulez, mon intervention...
Mais pardon, pourquoi faut-il qu'il y ait, avec tout le respect que je dois à Camille et qui joue extrêmement bien, mais au-delà du plaisir de faire tourner Camille... si elle n'avait pas pu, si elle n'avait pas voulu, vous auriez pu proposer le rôle à une comédienne peut-être moins connue que Camille, mais qui aurait aussi joué le rôle.
Mais bien évidemment.
Alors quel est votre plaisir d'avoir Camille ou Jeanne Balibar ?
Moi, quand je lis un scénario, je visualise tout de suite le genre d'acteur ou d'actrice avec qui j'ai envie de le faire.
D'accord.
Bon. Et moi, j'avais envie de tourner avec Camille. Je lui ai proposé. J'ai espéré qu'elle accepte. Elle a accepté. Voilà. Elle aurait pas accepté. Je vous dis pas que j'aurais arrêté de faire le film.
Mais alors, vous l'auriez prévu sur un autre
Sur un autre tournage, si elle avait voulu le faire. Bien évidemment.
Donc vous avez des rêves que vous voulez voir se réaliser. Jeanne Moreau, vous en avez parlé, vous avez dit un jour je tournerai avec Camille.
Jeanne Moreau m'a jamais dit tourner avec Camille. Jeanne Moreau m'a dit j'adore Camille comme chanteuse.
D'accord.
Voilà. Et on s'est retrouvés comme ça. Et puis je l'avais vue dans le film d'Emmanuel Berco, où elle était la fille de Catherine Deneuve. J'avais trouvé qu'elle était très intéressante. Voilà, c'est comme ça.
Quel est le plaisir que vous avez, Camille, d'être comédienne, d'être dirigée, de jouer un texte, une partition qui n'est pas la vôtre, contrairement à ce que vous faites sur scène, où là, vous êtes la patronne, où vous décidez tout?
Ah, ça me procure beaucoup de détente. Et puis, on va chercher des choses qu'on ne serait pas allé chercher par soi-même. C'est inconfortable et confortable, c'est un peu les deux.
Et de dire un texte qui n'est pas le sien, de faire passer des émotions qui seraient pas forcément les siennes, c'est de jouer comme peut-être vous aviez rêvé d'être comédienne.
Oui, pour moi, je suis interprète, donc je joue. Moi, j'aime jouer. Voilà. Alors, je joue de la musique, mais j'aime jouer. J'aime danser. Voilà.
Ouais, c'est de l'interprétation.
Donc,
ouais.
Voilà. Donc c'est très lié. Et puis il m'arrive de chanter des chansons que j'ai pas écrites, donc me glisser dans un texte, Petite fille du soleil par exemple, ou d'autres. Voilà, c'est un exercice que j'adore.
Alors ce qui est très délicat, c'est qu'on a envie de parler de cette série que l'on a vue, mais on peut rien dire évidemment parce que c'est fait que de rebondissements et que de surprises et des fausses pistes. On se laisse balader aussi. On se demande.
Moi, je ne pense pas. Je trouve que le scénario d'une voix dans la nuit, pour moi, est très réussi. Bon, c'est Emmanuel Michelet qui l'a écrit, compagnie de quelqu'un d'autre dont...
Alexia de Oliveira Gomez.
Bravo, voilà, c'est compliqué. Alexia de Oliveira Gomez, c'est presque Don José, quoi. Bon,
voilà. Et Emmanuel Michelet qui joue également.
Hein?
Elle joue également dans la série.
Oui, ben oui, bien sûr. Emmanuel Michelet.
C'est rare que les scénaristes soient aussi...
Elle est actrice aussi.
Oui, mais c'est rare qu'elle soit dans leur propre
scénario. En fait, j'ai connu à l'époque... quand j'ai fait un film avec Alex Lutz, elle travaillait avec lui, etc. Elle était scénariste et actrice. Et elle m'a dit, et si tu veux bien, j'aimerais jouer ce personnage, j'ai écrit en pensant à moi. Alors bon, que faire? Là, j'ai dit, ok, d'accord. Et d'ailleurs, elle est très bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, dans Marlowe, évidemment, le scénario compte. Mais ce qui compte surtout, c'est, comment dire, le climat qui se dégage de ces films-là, parce que l'intrigue policière dont vous parlez, évidemment, je pense qu'elle existe, mais que ça n'est pas le point le plus essentiel de Marlowe.
Oui, non, mais parce qu'on ne sait pas s'il y a un serial killer autour des Miss. Ça, c'est le point de départ.
Parce que
la jeune fille, la première jeune fille qui est victime, est une Miss ou une dauphine, je ne sais plus. Donc, il y a différentes pistes comme ça où on s'interroge. Et se faire balader, c'est aussi le principe d'un policier, non?
Oui, absolument. Mais encore une fois, quand on se fait balader par Marlowe, c'est surtout la balade de Marlowe qui nous intéresse. je trouve.
C'est ce soir sur France 3 à 21h. Voici Marina Rollman.
Ah, oui, ah, oui. Alors les amis, moi je voulais vous parler de la chose suivante, c'est qu'en ce moment je suis un peu alcoolique. Alors je sais, normalement ça c'est le sujet de Guillaume Auguise, hein, mais pour faire la balance il fera sa prochaine chronique sur le côté follement actuel de la comtesse de Ségur. Mais là en ce moment c'est mon problème. Alors attention, je dis je suis alcoolique, ça reste de l'amateurisme. Moi j'ai une petite constitution, donc ouais. Deux panachés, hein, mon chéri. Je me réveille 12 heures plus tard dans un pays dont je ne parle pas la langue et il me manque un organe. Mais ça m'inquiète parce que vu que je bois un peu plus d'alcool en ce moment, je mange moins sainement, forcément. Tu es ivre, 3h du matin dans ta cuisine, t'es pas là à retourner les armoires pour trouver du riz soufflé ou des yaourts au soja, tu vois. Et donc comme je mange moins sainement, je bois plus, je me réveille pas bien, donc je ne fais pas de sport, donc engrenage, terrible. Et à la fois, je pense que je suis pas seule dans l'addiction. pas à vous, hein, mais tu sais, j'ai l'impression d'en voir dans la rue souvent. Tu sais, par exemple, tu te balades parfois dans la rue à 23h un mardi, il pleuvine, c'est la glauquance absolue. Et tu croises des gars suréquipés, surmotivés, le regard de Christian Bale dans American Psycho, et ils courent. Les seuls autres connards dehors à cette heure-là, un mardi, généralement, c'est des gamins en train de foirer leur Erasmus, tu sais. Mais bon, eux, ils me font de la peine. Tu sais, quand tu croises des étudiants un mardi soir qui se murgent la tête au rhum arrangé dans des faux pubs irlandais en hurlant du Bonnie Tyler, tu sais que c'est un peu leur chant du cygne. Tu sais que c'est la fête des espoirs. Ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas mis les pieds à un seul cours de leur bachelor musicologie des médias. Donc ils profitent à fond de chaque minute parce qu'ils savent que le jour où leurs parents réalisent l'arnaque, ils se retrouveront dans le premier avion pour Tbilissi, ils finiront stagiaires dans une usine d'amiante. Mais donc, les sportifs, les gens que tu croises comme ça au milieu de la semaine, sous le crachin en semaine à des heures indues comme ça, personne ne les force. Leurs jours ne sont pas comptés, ce n'est pas leur boulot. Non, eux, s'ils courent, c'est parce que c'est des gros camés de l'endorphine. Et si ce n'est pas ça, bah, c'est le café. C'est devenu socialement acceptable d'être un toxico du café. Mais il faut les écouter parler. Il y a des gens, c'est des intégristes. Moi, il y a un bar à café un peu spécialisé pour amateurs à côté de chez moi. C'est une secte. Les mecs, ils disent des trucs genre « Ouais, non, décaféiné, ça c'est un mot que je connais pas. » Tu bosses dans le café et tu connais pas le mot décaféiné. Autant tu m'aurais dit « Tu connaissais pas le mot hallebarde. » Ça t'empêche pas de faire des cappuccinos, mais décaféiné. Mais c'est parce qu'en réalité, c'est des puristes, les décaféinés, c'est pas bon, c'est pas bien, etc. Mais je te jure, c'est des endroits où je me suis jamais aussi mal fait traiter de ma vie. Un truc sur deux que tu demandes, on te dit qu'ils ont pas. Deca, non, on n'a pas. Du sucre, non. Le lait, non plus. Non, nous, les tasses, en fait, on n'est pas fans. On préfère verser l'espresso directement dans le client pour avoir vraiment une bonne prise en bouche. Ouais, voilà, c'est ça. Toute la rondeur de l'arabica. Mais alors, pourquoi ils peuvent faire ça? Mais parce que c'est des dealers, les gens qui sont accros au café. Ils sont comme tous les addicts. Ils se laissent maltraiter par les gens qui détiennent leur cam. Et si c'est pas ça, si t'es pas accro au café, t'es pas accro au sport, eh ben, t'es accro à ton téléphone. Si tu bois pas, tu fumes pas, tu passes pas ta vie dans une salle de sport, tu bois pas 16 litres de café avant midi, eh ben, t'es fébrile, t'es tout le temps sur ton téléphone. Donc, il faut le recharger. Et alors, autant Paris, plutôt crever que de dire pardon quand tu démets l'épaule de quelqu'un en le bousculant dans la rue, autant si t'as besoin d'un chargeur de téléphone. Mais tout à coup, mais il y a une solidarité entre inconnus. On dirait on est tous ensemble dans la troupe des enfoirés, les gens se sourient, se tutoient, se font des câlins. Parfois, tu vois deux inconnus dans un resto se dépanner d'un chargeur de téléphone, c'est dingue. Toute l'humanité qui passe entre eux, le regard embué. On dirait des parents d'enfants qui ont la même maladie rare. Oui, je sais, j'en ai un aussi à la maison. Enfin, tout ça pour dire, quitte à choisir une addiction, en ce moment, moi, c'est le Bourgogne, et à défaut de faire plaisir à mon foie, ça fait tourner l'économie française. J'attends si vous avez mieux à me recommander.
Bravo, bravo. La
sur France Inter.
Ce soir, 21h sur France 3, Capitaine Marlowe, une voix dans la nuit avec Camille, qui est notre invitée, Benjamin Biolay, Jeanne Balibar, Corinne Maziro, évidemment, tout ça sous la direction de José Taillant.
Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux.
C'est le générique de l'émission de radio, parce que tout part d'une émission de radio animée par Jeanne Balibar. Et justement, la musique dans vos vies, à quel point compte-t-elle? Qu'écoutez-vous? On va commencer en 60, dans les années, fin des années 70, avec Camille qui écoutait.
Ah, c'est pas mal.
Avec le vrai rire, les vrais gazouillis de sa fille, enregistrée en studio. Ça vous évoque quoi cette musique, Camille, quand vous écoutez?
Vous avez choisi l'année de ma naissance, alors ça m'évoque la naissance, cette petite fille qui naît.
Qui est au début du disque, ouais, c'est ça.
L'amour de son papa, c'est extraordinaire.
Vous avez grandi dans quel genre de famille, justement?
Une chouette famille. J'aime bien mon papa et ma maman.
Ouais.
Musical, drôle, fantaisiste.
Deux profs.
Oui, deux profs, oui, un télo aussi, de gauche.
anti-nucléaire, voilà.
Écolo, avant l'heure.
Moins que moi, mais c'était une autre génération, mais déjà, ils étaient conscients de plein de trucs.
Il y a un cancer marquant, c'est Ray Charles.
Ray Charles, quand j'avais 7 ans, dans les arènes de Nîmes, oui.
Et qu'est-ce que...
En plein air.
Ouais, qu'est-ce qui vous reste de ce concert?
C'est complètement vivant, vibrant. Je me souviens de ces trois choristes qui bougeaient en miroir, de lui qui se bougeait sur son tabouret. Et dès que je vois des enfants à mes concerts, je suis émue et j'ai une pensée pour les parents. Je me dis merci, merci, merci. Vous vous rendez pas compte comment ça peut changer sa vie.
C'est vrai en plus. Ouais, ah, tellement vrai. Je vous ai d'ailleurs, en fin des années 70, vous écoutiez John Lennon. Imagine there's no heaven.
J'adore. No hell below us.
Regardez. Imagine, John Lennon, c'est pour la musique que vous aimez cette chanson ou c'est pour les propos agnostiques, hein, puisque ça rejoint la chanson d'Alain Souchon, et si en plus il n'y a personne, cette
chanson. C'est pour les deux, mais c'est surtout pour la musique. Et c'est surtout parce que j'adore John Lennon. J'étais très bouleversé par sa mort.
Son assassinat, oui.
Oui, ouais, son assassinat, bah, et ouais, qui revient à une mort. Bon, bref.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un fan lui ayant demandé un autographe.
Ouais, c'est terrible.
C'est une fin encore plus.
C'est horrible. Ouais. Et à chaque fois que je vais à New York, je vais devant la porte de son lieu où il a été assassiné. C'est vous dire à quel point. Ça m'a marqué, oui. Je trouve absolument génial. Je trouve que c'est un mélodiste merveilleux.
Et à cette période-là, José Gaillan, vous réalisez un documentaire consacré à Simone de Beauvoir.
Oui, en fait, un long métrage qui était Simone de Beauvoir. Parce que j'avais fait avant La femme rompue. Et elle m'avait demandé deux choses. Elle m'avait dit, je voudrais vous demander de faire 4 films sur le deuxième sexe. Et là, j'étais absolument atterré parce que moi, je n'aime que la fiction. J'aime que les acteurs et les actrices. Le deuxième sexe, il n'y avait pas de fiction. À la fois, c'était passionnant à faire quand je m'y suis plongé. Mais et elle me dit, voilà, Sartre a eu un film qui a été fait sur lui et je voudrais que vous fassiez un film sur moi. Donc, j'ai dit, bon, d'accord, j'ai fait un film sur elle. C'était pas de la fiction non plus, mais c'était intéressant.
Et vous partagez ces positions féministes, vous en discutiez?
Non, mais alors attendez, bon, on va rester calme.
Moi, je suis hyper calme.
Non, mais... parle de moi. Non. Ah ouais. On va pas dire que je ne sois pas féministe.
Non.
Bon, je suis une femme, j'aime les femmes. Bon, mais je ne suis pas, comment dire, militante féministe. Voilà. Je trouve que finalement...
Non, mais vous êtes pour l'égalité, quoi, oui, entre les hommes et les femmes.
L'égalité, c'est pas exactement pareil.
Eh ben, c'est ça, hein, finalement, être féministe.
Non, après, ça dépend, il y a quand même certaines manifestations. En tout cas, à l'époque de Beauvoir, c'était nécessaire.
Oui, il y avait des combats.
Voire indispensable.
Mais
aujourd'hui, il y a certaines manifestations de féministes, honnêtement, qui sont ridicules. On a finalement, à la limite, envie d'être macho, quoi.
Non, mais sauf que ce que je veux dire par là, José Dayan, c'est comme si on demandait à tous les hommes de voter qu'à droite ou à gauche. Il y a forcément des dissensions au sein d'une grande famille qui veut l'égalité et qui a des moyens différents ou qui estime qu'il y a des moyens différents pour y arriver.
C'est vrai que, par exemple, cette histoire du deuxième sexe m'a permis à la fois de comprendre, évidemment, à l'époque, ce que ça représentait, parce qu'on a fait le tour du monde, en plus, on a été aux États-Unis, en Chine, partout. Donc, ça a vraiment un impact. C'est un film que j'ai demandé à Catherine Clément de faire avec moi. En tout cas, au niveau des entretiens avec Indira Gandhi, etc. Mais ça m'a permis aussi de rencontrer, puisqu'on est là, c'est un peu une tribune, rencontrer une femme que j'admire beaucoup, qui est Elisabeth Badinter, et qui elle aussi est féministe. Mais je ne parle pas du féminisme de Simone de Beauvoir ou d'Elisabeth Badinter, qui est magnifique. Je parle d'un féminisme sectaire qui, à certains moments aujourd'hui, devient ridicule. Voilà.
Dans les années 95-96, Camille, vous écoutiez Björk. Elle vous a beaucoup influencé, Björk, dans son travail?
Je l'adore, c'est un génie. Bien sûr, elle m'a influencée par sa liberté, sa voix, elle a quelque chose de sauvage. Et puis là, j'adore ce morceau parce qu'il y a ses percussions voix, quoi. Très peu d'harmonie. Bien sûr, elle m'a influencée. Je pense
que vous avez beaucoup de chanteuses. Ouais. Jouer avec son corps comme d'un instrument, ça c'est votre mojo, ça vous.
Oui. J'aime beaucoup. Vous parliez de jeu. Pour moi, à l'intérieur de mon travail, je me donne des rôles à moi-même. En fait, je fais parler toutes mes voix intérieures. Ça m'amuse énormément.
95-96, Camille, vous faites des études brillantes. Vous entrez à Sciences Po. Et parallèlement, le soir, vous allez jouer dans des clubs de jazz.
Oui, c'est un résumé possible, oui. Il me semble que j'ai commencé à chanter dans des clubs de jazz, oui, à la toute fin de mes études, ou peut-être quand j'avais fini Sciences Po, je ne me rappelle plus exactement. Mais c'est vrai que ça faisait déjà un moment que j'enregistrais ce qu'on appelle des maquettes, mes premières chansons. Ouais,
mais Sciences Po, c'était une piste que vous faisiez pour satisfaire une passion, pour rassurer vos parents en disant « je vais avoir un diplôme, je ne serai pas que artiste », qui inquiète toujours les parents.
On n'arrête pas un cheval au galop. Moi, j'ai fait l'école publique depuis toute petite, de manière assez élitiste. Et puis, mon cerveau, il avait envie de nourriture, en fait, je crois. Et voilà, j'ai eu mon bac, et puis j'avais envie de encore apprendre. Puis évidemment être diplômée, ça c'est peut-être mon côté féministe, je voulais être une femme diplômée, mais je savais depuis longtemps que je voulais être chanteuse, artiste. Ouais.
Qui était synonyme d'indépendance, être diplômée ça voulait dire d'avoir
besoin
de... Oui,
dire que c'est fait et puis ça ne m'impressionne plus, voilà.
Et cet appétit, vous l'avez toujours eu d'apprendre, de découvrir par les livres, par la lecture?
Ah ouais, j'ai toujours beaucoup aimé lire.
Et quel auteur? Ou quel genre de lecture?
Adolescente, je me suis, j'ai lu tous les classiques, quoi. J'ai lu tout Zola, Victor Hugo, je sais plus, beaucoup les Français. Hein. À l'époque, je disais plutôt de la littérature française.
Et aujourd'hui,
Shakespeare aussi. J'aimais lire Shakespeare.
D'accord. Mon
texte, j'adorais.
José Dayan, vous écoutiez dans ces années 90, Klaus Nomi. C'est une BO cette musique. Hein.
C'est une musique baroque, c'est une musique de Purcell. Et j'adore la musique baroque. Normalement, c'est pour un castrat, évidemment. Et puis maintenant, c'est admirablement chanté par une chanteuse américaine que je trouve extrêmement douée, qui s'appelle Joyce DiDonato. J'aurais pu choisir son interprétation. J'ai choisi Klaus Nomi parce que c'est la première fois que j'avais entendu cette musique baroque chantée de cette manière-là, et qu'il a une fin tragique lui aussi. Enfin bon, bref. Donc, parce que aussi les destins des interprètes sont liés. Pour moi, c'est pas juste une interprétation. Il y a quelque chose de vibrant, comme avec John Lennon et avec Klaus Nomi pour d'autres raisons.
Et à cette époque-là, c'est la série La Rivière Espérance pour France 2, José Dayan. Et là, vous dites qu'il y a eu un avant et un après. Vous deviez faire 6 épisodes. Vous en faites finalement 9. C'est hyper serré côté budget, côté temps. Ça commence à être diffusé et tout d'un coup, ça prend une dimension dingue. Surtout grâce à, ou notamment, il y a un encouragement qui vous touche au cœur, c'est celui de Depardieu.
Oui, c'est-à-dire que, en effet, la série de La Rivière Espérance était commandée, je crois, pour 6 films. Et puis le producteur a montré quelques images. Et d'un seul coup, en cours de route, il a dit « bon, il faut faire 9 films ». Alors, le matin, on tournait dans un décor qu'on devait quitter de toute façon avant Noël, qui était à Carénac, avec ses gabarres, etc. On recevait mail, enfin, je sais même pas s'il y avait des mails à l'époque. Ben, bref, on recevait le texte qu'on devait ajouter à la journée qui était déjà prévue. Donc
fin 90, non, il n'y avait pas de mail.
Ben alors c'était le
fax.
Fax, ouais, voilà. Ouais. Fax. On recevait le texte et il fallait intégrer ces séquences dans ce décor. Alors ça devenait assez problématique et à la fois, intellectuellement, c'était très amusant pour moi d'arriver à l'intérieur d'un plan de travail qui était déjà serré, à intégrer d'autres séquences qui n'étaient pas prévues. Bon, donc ça m'amusait parce qu'il y avait un côté challenge. Et puis quand le film a été diffusé, le premier, je me souviens, c'était un jour d'entrée des classes où il y avait eu un attentat, je sais pas quoi. Donc il y avait très peu de gens devant la télévision. Et le producteur, Jacques Salles à l'époque, pour Gaumont Télévision, m'appelle le mardi matin, c'est lundi, je crois, en me disant « Oh là là, c'est catastrophique, on a fait 22%, comme si évidemment la Terre s'écroulait. Mmh. Bon, bah, c'est catastrophique, la Terre s'écroule. Et puis, on a commencé à 22, on a fini à 38%. On a encore une fois Zlatané beaucoup. et voilà, elle arrivait à l'espérance. Alors, elle a, indépendamment du fait de ce zlatanage systématique, elle a eu un avantage à mes yeux extrême. C'est la rencontre avec une actrice magnifique, qui est Elisabeth Depardieu, une femme rare. Et quand elle m'a vu tourner précisément, rapidement, comme ça, etc., elle m'a dit, mais vous savez que Gérard adorerait tourner avec vous. Je dis, ah bon, très bien, oui. Et en effet, le soir de la première diffusion, le premier appel que j'ai eu, c'est Gérard Depardieu qui m'a appelé. Il m'a appelé pendant les 12 diffusions. Et il m'a dit, je vais faire Monte Cristo, je vais le faire avec vous. Voilà. Donc, évidemment, ça a changé ma vie, la Rivière Espérance.
Et Monte Cristo, il est vraiment génial. C'est ce que j'ai fait sur Monte Cristo.
Gérard Depardieu était l'un des premiers à venir dans, justement, dans la série.
Mais c'est-à-dire l'un des premiers, surtout le premier avec cette popularité qu'il avait, vous voyez.
Il est dans le premier Marlowe?
Ah oui, mais ça, c'est autre chose, parce que après Monte Cristo, on a fait évidemment Balzac, Les Misérables, lui, il est venu en participation dans Les Rois Maudits. Et Gérard Depardieu, ça fait partie de ma famille vraiment profonde, affective. C'est quelqu'un que j'admire définitivement et que j'aime infiniment. Et quand on a fait le pilote, comme l'ADN, encore une fois, de Marlowe, c'était d'avoir une star face à Marlowe, je me suis dit, je vais appeler Gérard. Je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que tu veux venir? Il m'a dit, c'est quoi? Je lui ai raconté en deux mots. Il m'a dit, écoute, j'ai pas le temps de lire le scénario, c'est quel jour j'arrive. Il est arrivé.
Et Elisabeth, que l'on retrouve demain aussi dans,
Elisabeth,
dans
alors,
le Fred
Elisabeth,
Vargas.
C'est une autre histoire, parce que quand j'ai lu « Quand sort la recluse » de Vargas, il y avait un personnage qui était Irène, et je me suis dit, c'est pour Elisabeth. J'ai appelé Elisabeth, elle m'a dit, écoutez, je vous adore, mais moi, ça fait 25 ans que je ne tourne plus, je ne veux plus tourner. Écoutez, Elisabeth, pour moi, vous pouvez faire ça. Et elle m'a dit non. Et j'ai vraiment insisté, elle m'a dit oui. Et puis finalement, elle est très heureuse de l'avoir fait, parce qu'elle est magnifique dedans.
Ça, la recluse, le Fred Vargas, ça sera sur France 2, avec aussi Corinne Maziro qui est dedans. Mais ça sera demain, ce soir, sur France 3, 21h, Capitaine Marlowe. On a demandé à Alexandre Alfonsi, merci de venir à ce micro. Pardon Alexandre, vous êtes journaliste à Télé 7 jours, vous suivez la série depuis le début. On vous a demandé de venir parce que, comment expliquer le phénomène du Capitaine Marlowe? On dit que c'est une intrigue, on dit que c'est naturel, on dit qu'elle est... totalement hors code, finalement, d'un capitaine de police.
Alors,
qui attire les gens?
Ce qui attire les gens, alors d'abord, pour Marlowe, je pense que Marlowe, c'est une belle rencontre entre une réalisatrice pardon, de génie et une comédienne si à part. Et comme disait dernièrement, j'ai vu Benjamin Biolay pour sa promo, et il m'expliquait quelque chose d'assez simple. Il me disait, c'est très simple, Corinne et José, elles ont créé quelque chose d'authentique, vrai, comme un groupe de rock. Et j'ai trouvé pas mal cette formule. Et voilà, après, le personnage de Marlowe, il touche, il est attachant, parce qu'en fait, compte, c'est dans le PAF, c'est un peu unique, en fait. Quand Marlowe a débarqué, on s'attendait pas à ça. Avec des confrères, on se disait, mais d'où elle vient, cette Corinne Maziro? On savait qu'elle avait fait pas mal de choses. Et on découvre, en fait, compte qu'elle a développé avec José quelque chose d'assez intime et d'assez... quoi, elle a créé un lien fort avec le public. C'est hallucinant.
Alors, vous avez été figurant sur
la
série.
Exactement. En fait, donc j'ai fait plusieurs sujets et à un moment donné, je savais plus quoi faire et j'ai demandé la permission à José de faire figurant et c'était drôle parce que
pour voir comment ça se passait de l'intérieur.
Exactement. D'accord. Et donc j'ai eu le Graal parce qu'en fait, moi j'étais gendarme. Donc gendarme dans Capitaine Marlowe, c'est le Graal.
Et comment il se la raconte?
Non mais et quand j'ai débarqué, c'était drôle parce que donc j'étais avec d'autres figurants gendarmes et donc je me présente, Alexandre, et ils me disent vous êtes de quel commissariat? Et moi je dis non, moi je suis Télé 7 jours. Et parce que j'ai découvert qu'en fait, José, quand elle prend des figurants, mais elle prend des vrais figurants, en fait.
Ils sont vraiment gendarmes?
Non, en fait, voilà, sur les gendarmes, elle prend des policiers. Moi, j'étais avec un membre de la BAC, il y avait quelqu'un du commissariat, donc je trouvais ça bien, déjà. Et après, sur place, j'ai vu comment José travaillait, comment Corinne travaillait. Donc Corinne, elle est vraiment, elle est dans son texte, et on voit, mais engagé à 900%, et j'ai vu également comment José travaillait, et c'est assez étonnant de voir cette réalisatrice, parce qu'en fait, j'ai découvert, en fait, il y avait trois mots la concernant, c'était, pour la définir, c'était amour, fidélité et exigence. C'est qu'en fait, sur le tournage, j'ai vu que à tel point elle aimait les acteurs et les actrices, et à tel point elle aimait tourner, quoi, c'était sa raison d'être, elle a une fidélité absolue envers ses équipes, donc du coup, ça va vite parce que tout le monde se connaît, et après, elle a une exigence qui pousse à l'excellence. Donc c'est vrai que c'était intéressant de voir le travail de José.
Vous avez bien fait de venir, José.
Intéressant de voir le travail de...
Il n'y a pas un défaut, il n'y a rien qui,
allez,
qui sort quand même.
Mais je vais retourner sur le tournage, moi. Nagui, s'il vous plaît.
Parce que quand on dit quelqu'un qu'il est fidèle et exigeant, ça peut vouloir dire qu'il est hyper chiant aussi, quoi.
Ouais, enfin, autoritaire, je sais pas.
Oui, mais on peut avoir peur de se dire...
Déterminé.
Déterminé, mais
pas autoritaire.
Mais comme disait...
Déterminé.
Comme vous disiez au début, José tourne vite. Et ça intéresse tout le monde, en fait. Les techniciens, ça va vite, ça les intéresse. Les acteurs également. Donc, c'est un ensemble. Et pour finir avec le tournage, donc j'ai rencontré aussi Corinne sur un tournage. Et vraiment, c'est un amour. C'est quelqu'un, elle est simple, elle est authentique. Elle a un franc-parler, il n'y a pas de langue de bois. Voilà, c'est vrai que c'est une actrice qui a une vie à part. Et
qui refuse même le star system, qui continue de se déplacer
exactement.
En métro, bus.
Elle prend le métro, voilà, c'est vraiment quelqu'un d'assez étonnant, assez vraiment atypique.
Et alors, est-ce que c'est pas justement aussi une représentation d'une France que l'on voit pas beaucoup à la télé, Corinne Maziro et le capitaine Marlow finalement?
Vous avez raison, c'est vrai que Corinne, elle s'en cache pas, hein. Elle vient d'un milieu prolo, elle vient du Nord.
Elle a raconté de la rue, oui.
Oui, de la rue, elle est très attachée à ses racines. Et puis vraiment, c'est l'héroïne du peuple, hein. Et elle a fait du théâtre de rue, mais elle a un attachement. Et quand j'étais sur le tournage, les figurants, ils viennent bien sûr pour Marlow parce que c'est une série culte, mais ils viennent pour se rapprocher de Corinne également. Parce que ils la voient, en plus c'est une femme engagée. Elle mâche pas ses mots.
Alors,
c'est intéressant.
Elle vient de signer. Alors, je sais pas si ça s'appelle. On dit signer pour TF1. En tout cas, elle va faire une série pour TF1.
Non, pas une série, un film.
Un film pour TF1.
Ouais.
Est-ce que ça vous a piqué un tout petit peu, José, ou non, je sais pas.
Attendez. Mais vous plaisantez.
C'est une question.
Non, mais je crois que vous plaisantez.
Mais c'est pas mal.
Moi, je vais vous raconter.
Non, j'ai d'autres vannes.
Ouais. Moi, je vais vous raconter. J'ai eu la chance dans ma vie de tourner avec les plus grands acteurs du monde. Gérard Depardieu, John Malkovich, Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Fanny Ardant, Gami, Balibar, qui on veut. Bon, j'ai créé cette série avec Marlow, avec Corinne, et je suis heureuse que le fait d'avoir fait cette série avec elle, grâce à son talent, encore une fois, et à sa particularité, ait fait qu'aujourd'hui, TF1 ait décidé de faire un film avec elle comme héroïne, ce qu'il n'aurait jamais décidé avant le succès de Marlow. Donc je suis extrêmement fière que TF1...
Qu'il monte un projet sur son nom.
Monte un projet uniquement sur son nom.
Il y avait déjà eu un super film avec Corinne Massero avant qu'elle soit dans Capitaine Marlow. On l'avait découvert dans ce film génial. C'était Louise Wimmer.
Alors Louise Wimmer.
C'était super
Louise
beau.
Louise Wimmer a été fait et Corinne me l'a dit et a même donné une interview dans une dernière page de Libé à l'époque parce que le metteur en scène de Louise Wimmer l'avait vu dans Vargas. Excusez-moi de revenir à Vargas. Donc si vous voulez, la carrière de Corinne et son talent est intimement liée au fait que je lui ai donné un rôle très important dans Vargas sur 4 épisodes sur 5 épisodes, qui a fait que Louise Wimmer a débarqué, ouais. Qu'après Louise Wimmer, elle a fait un film avec Audiard, etc., etc. Ce qui, selon moi, n'aurait été en aucun cas suffisant pour que TF1 en fasse une héroïne d'un téléfilm à 20h50, compte tenu de qui est Corinne Maziero et théoriquement du style des séries de TF1 ou même des unitaires de TF1. Il se fait que je pense que Corinne Maziero fait ce film qui se passe en Afrique, qu'il y a été proposé d'ailleurs il y a des années, qui a jamais pu être monté et qui maintenant, grâce au succès qu'elle a dans Marlow, a pu être monté. Et je pense que c'est une prise de guerre pour TF1 qui me semble légitime de leur part.
Et vous dites prise de guerre, justement, comment ça peut être vécu soit par les chaînes, soit par le public, soit par vous? Est-ce que c'est une...
Alors par moi, je vous ai dit...
Est-ce que tout est possible, finalement? On peut être héroïne sur TF1 comme héroïne sur France 3 ou France...
Mais attendez, un acteur a le droit d'aller d'un théâtre à un film, à un téléfilm, etc. Autrement, ce serait...
Oui, on imagine bien que la chaîne compte sur la fidélité aussi entre...
Ah mais attendez, si Corinne Maziero allait sur TF1 jouer un gendarme... D'abord, ce serait impossible, car on a des contrats très particuliers avec elle.
Ça.
Et si elle faisait une série de cet ordre-là, ce serait impossible.
D'accord.
Si elle va sur TF1 faire un unitaire qui n'a rien à voir, d'ailleurs, elle est une bonne sœur, là, donc, bref, ça n'a rien à voir. moi, je vais vous dire, ça fait plaisir pour elle.
Très bien.
Je suis très
contente. Mais on est ravis.
Moi, j'ai aucun sens de l'exclusivité.
Merci Alexandre Alfonsi. On vous dira si vous avez eu un rôle ou pas dans le prochain José, parce qu'apparemment elle fait son casting en ce moment.
Merci
à vous. Alexandre d'être venu à ce micro. Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Comment faire l'amour sans faire de mal à la planète?
Eh bien c'est compliqué, c'est une vraie question. C'est pourquoi je prône l'abstinence, c'est mieux. En plus on ne se déshabille qu'une fois dans la journée. Parce que les préservatifs par exemple sont en plastique. On les jette, ils se retrouvent dans l'océan et après la séance d'apnée des successeurs de Jacques Mayol, c'est quasiment du X.
On en parle.
Des préservatifs en caoutchouc naturel.
Oui, voilà, c'est ce que j'explique tout à l'heure.
Eh ben justement, voilà.
Pas ma chère Camille.
Ça voilà. S'appelle l'eau à la bouche.
On en
parle.
Équitable.
On en parle après.
On appelle ça comme ça.
On en parle après les infos de midi. Avec Léa Cadeau-Boudali, Marina Rollman, Tanguy Pastureau, Tom Villa,
bonjour.
Daniel Morin,
bonjour, Tanguy.
Et nos invités Camille et José Layan. Nous parlons de cette série Capitaine Marlowe ce soir sur France 3.
Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux.
Ça se passe à la radio, c'est pas pour ça qu'on en parle particulièrement et qu'on a aimé cet épisode. Mais on l'a aussi aimé avec la présence de Camille, de Benjamin Biolay, de Jeanne Balibar, qui sont présentes dans cette série. Vous l'avez dit tout à l'heure, José Dayan, finalement, les Capitaine Marlowe se baladent un peu partout dans différentes régions. Donc il y a de nouvelles rencontres, donc il y a de nouveaux personnages. Et vous construisez ces, vous réunissez ces personnages d'après des quoi? Des rêves, des envies, ou c'est en fonction du thème?
Mais c'est-à-dire que quand on nous propose, par exemple, au niveau d'une continuité ou d'un synopsis, un projet pour le capitaine Marlowe, je regarde immédiatement la possibilité d'avoir un rôle intéressant pour un acteur ou une actrice avec qui j'ai envie de tourner.
C'est-à-dire, alors pardon, ce sont des scénaristes qui vous envoient des histoires pour le capitaine Marlowe, oui. Et c'est pas vous qui
au départ, c'est nous qui en avons demandé, mais maintenant, compte tenu de l'effet Marlowe, si vous voulez, on est
vous en recevez sans
submergé
les demander, quoi.
De propositions.
C'est voilà. Dingue, ça. Ouais.
Et quand, par exemple, on a reçu cette proposition d'Emmanuel Michelet, que je connaissais par ailleurs, donc comme je vous l'avais dit, je l'ai rencontré avec Alex Lutz il y a quelques années.
Et de Alexia de Oliveira Gomez.
Ça voilà. Mais, bon, mais ça, je, voilà. Bon, bref. Mais c'est bien que vous puissiez la citer. Eh bien, j'ai tout de suite vu la possibilité, si vous voulez, d'avoir un panel d'acteurs et d'actrices particuliers compte tenu du caractère des personnages.
D'accord.
Et donc j'ai dit d'accord. En fait, avec Passion Film, avec qui est la société avec laquelle on produit.
Est-ce que l'inverse peut se produire, c'est-à-dire que vous ayez envie de tourner avec trouvez-moi un nom de comédien qui Guillaume Canet et qui a pas encore tourné avec vous,
voilà.
Et que vous demandiez à des scénaristes
d'écrire un scénario pour Guillaume Canet.
Voilà. Mais pour le capitaine Marlowe avec
bien
Guillaume.
Mais bien évidemment, c'est ce qui s'est passé pour le film avec Isabelle Adjani. Donc bien
c'était
sûr.
Du sur-mesure.
Oui. Donc pour revenir à ce que vous disiez, avec Passion Film, c'est-à-dire qui est ma société et qui est dirigée par Gaspard de Chavagnac, Gaspard s'implique beaucoup dans les textes, dans la lecture des textes. Donc lui, il est vraiment très axé sur les scénarios. Et moi, je suis très axé sur... C'est Simone de Beauvoir qui me disait, vous êtes comme Sartre, vous lisez en diagonale. Et Simone de Beauvoir, elle lisait ligne par ligne. Bon. Et moi, si vous voulez, quand je lis un scénario, une proposition, je suis dans la globalité de ce que ça va pouvoir impliquer comme acteur ou actrice.
D'accord.
C'est ça d'abord qui est mon moteur.
Et ça veut dire que vous avez une petite liste aussi des gens.
Non, j'ai pas une liste.
Avec qui vous voulez.
Non.
Parce que je vois Michel Lescaut, c'est un comédien de théâtre que j'adore.
Ah, mais
je l'adore,
mais j'ai pas
cinéma.
Une liste. Je, voilà,
ouais.
J'ai dans
vous
ma
avez pensé
tête,
à lui.
Cœur,
et il vient.
C'est un grand acteur, Michel.
Ouais, c'est un très grand acteur.
Ouais.
Ce soir, donc, une voix dans la nuit, Capitaine Marlowe, à 21h sur France 3. Mais évidemment, on veut savoir ce qui se passe au niveau du préservatif. C'est maintenant avec Tanguy Pastureau. Donc Tanguy, la transition écologique touche le sexe aussi.
Oui, alors pour nos auditeurs qui depuis plusieurs années déjà sont plutôt branchés visionnage de séries ou lecture de bouquins, puisque nous sommes sur France Inter. Alors petit rappel, le sexe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une activité physique, comme le tennis, sauf que tous nous avons le matériel nécessaire sur nous. Hein, contrairement à la planche à voile, il n'y a pas besoin d'être licencié d'un club pour le pratiquer, même s'il existe des clubs pour le pratiquer. Je pense au Pink Moon de Charleville-Mézières, ou Silvio le patron, qui en réalité s'appelle Jean-René, mais ce prénom suscite autant le désir que la musique de Lou Doyon l'envie de faire un pogo en hurlant qu'on aime Satan. Silvio, donc, a une carte des cocktails sur laquelle chaque cocktail correspond à un numéro de position du Kama Sutra. Alors ne prenez pas le 69 parce que Silvio remplit votre verre avant de le retourner. Le résultat, vous avez tout sur les genoux. Hein, ensuite, votre conjoint pense que vous êtes un alcoolique alors que vous êtes juste un partouzeur. Et c'est important dans un couple de connaître précisément les défauts de l'autre. Eva Braun, par exemple, reprochait à Hitler d'être mal coiffé. Toujours l'arrêt sur le côté. Lui disait « Tu ressembles à Alain Duhamel ». Il répondait « Qui ?» Normal, en 38, Alain Duhamel n'était pas connu. Il débutait à peine dans le métier. Alors qu'en fait, Hitler avait des défauts largement plus gros que sa coupe. Bref, le sexe, c'est formidable. Et c'est la seule activité accessible à tous, alors que la pelote basque. Eh ben, il faut être basque. Christophe Castaner, qui est provençal, ne peut pas en faire. Ce qui fait qu'il s'est rabattu sur le sexe. Il vit des soirées d'anniversaire débridées, vodka, pomme, MST. Seulement, le problème du sexe, c'est un, que ça dure peu de temps, c'est pourquoi on a besoin de fiction, comme Capitaine Marlowe, pour occuper le reste de sa semaine, voir si on ne couche plus du tout, sans qu'il y ait tout Game of Thrones. Ensuite, on raconte dans un bar qu'on a pleuré à l'épisode 7 de la saison 5 quand le dragon y meurt, et ça donne encore moins envie aux autres de coucher avec vous. Deux, le sexe, c'est sale. On s'en met partout, il faut laver le linge, se doucher, c'est donc une aberration écologique. Jackie et Michel ont fait plus de mal à la planète qu'Ariel Dombal quand elle prend un jet privé pour faire un Paris-Melun. Heureusement, est arrivé le sexe éco-friendly, Nagui, qui respecte la planète. Le Monde a fait un article là-dessus ce week-end. Et alors, c'est une révolution. Hein, fini le sexe à l'ancienne le samedi soir devant Ruquier, alors qu'au moment où on jouit, apparaît à l'écran la tête de Charles Consigny. Ce qui donne l'impression de faire l'amour à un mec de droite. Essaye, auditeur d'Inter, tu vas découvrir d'autres horizons. Benoît Hamon est une impasse. Exemple, dit Le Monde, vient d'être lancé Gaïa Eco, premier vibromasseur biodégradable. Il est en amidon, comme les cols de chemise, mais moins pointu. Donc on a pas mal. Hein, les Bee Gees en 77 avaient essayé avec leur colle à eux, ils s'étaient fait un déchirement. Oh. En 15 jours, le sextoy était en rupture de stock. Hein, Noël, ma mère en a pris 30, il est en orgasme permanent. Mais parce que l'écologie pendant longtemps, ça faisait pas envie. À chaque fois qu'ici on a reçu des écolos, ils sentaient fort, avaient les dents jaunes, des poils. Enfin, je me souviens que même Daniel Morin nous disait « Ces mecs, ce sont des déchets. »
Non, mais maintenant, c'est le contraire. L'écologie est sexy.
Oui, regardez Yannick Jadot. C'est le leader des Verts. Il est grand, beau. S'il se mettait de la farine, on aurait l'impression que c'est une baguette tradition bio. Et ben, quand on sait qu'il existe des préservatifs sans gluten, et ben, on a envie de l'inviter à boire un dernier jus de pomme devant le Naturalia de la Porte de Vanves. Le Monde le dit, il y a même des préservatifs conçus à base de latex issus du commerce équitable. Donc vous, vous faites plaisir à votre partenaire et vous faites plaisir à Pedro, le petit cultivateur péruvien, même s'il n'est pas dans le lit avec vous. Hein, ce qui est dommage, puisque des gens qui arrivent par le biais de la flûte de Pan à souffler simultanément dans 8 tuyaux en bambou ne peuvent pas avoir une sexualité autre que débridée. Mais parce que le préservatif classique, Nagui, on est d'accord, c'est une horreur. Il est fabriqué avec du pétrole. Hein, alors il y a des sans-plomb. Moi, une fois, j'ai pris un préservatif diesel, j'ai mis une heure à démarrer. Ensuite, certains le jettent dans les toilettes et ils se retrouvent dans l'océan. Les dauphins aujourd'hui évoluent au milieu de centaines de capotes. Potentiellement un remake du Grand Bleu aujourd'hui, il n'y a que Marc Dorcel qui peut s'y coller. Alors pire, d'après Le Monde, les lubrifiants contiennent des perturbateurs endocriniens. Alors là aussi, il y a des bio. L'actrice Gwyneth Paltrow conseille, elle, le saviez-vous, d'utiliser du lait de coco. Alors vous sortez une noix de coco, le conjoint vous dit « Chouette, super dessert ». Vous lui répondez « Alors non, ça c'est pour tout à l'heure, hein, bébé ». Alors le souci, c'est qu'ensuite on confond alimentation et intimité et qu'on a vite fait de se frotter le sexe avec une blanquette de veau. Enfin, dernière tendance, existe des sextoys en bois. Alors au début ça surprend, mais si, on a l'impression d'avoir ça une pique. Relation avec Pinocchio, hein. Pour les gens qui ont grandi avec Disney, on peut craindre que derrière il y ait les sept nains qui déboulent, hein. Tout est moustillé par la fin de leur journée à la mine, mais là encore, c'est du bois, donc c'est formidable parce que pas de plastique, pas de perturbateur endocrinien, rien. Donc la nature qui est pure et innocente, hein, candide des papillons multicolores évolue autour d'oiseaux chamarrés, ne doit pas souffrir du fait que nous faisons l'amour comme des porcs. Donc vive le sexe bio, non au plastique là aussi, et bisous à Pedro qui est au Pérou. Je pense à toi, mon amour.
Bravo, la bande originale,
Nagui, sur France Inter.
Chaque fois que le mot écolo est prononcé, José Dayan vous regarde. Camille, pourquoi vous avez été sur le tournage?
Non, mais pas du tout. Parce
vous
que
avez veillé à ce qu'il n'y ait pas de plastique.
J'ai eu le plaisir, quelques soirs de tournage, de dîner avec Camille. Et alors, elle avait une espèce de gourde.
Elle l'a avec elle, sa bouteille en verre.
En verre ou même quelquefois en métal. Hein ?
Oui, oui, elle voilà. devait être en métal ce soir-là. Bon, ouais.
Ce soir-là, elle était en métal et j'ai regardé avec intérêt parce qu'elle m'a expliqué pourquoi et j'ai trouvé ça vachement bien.
Et votre combat va plus loin, Camille, puisqu'il y a quelques groupes qui veillent à ce que les pochettes de leurs disques soient faites en papier recyclable, qu'il y a des concerts, il y a des stands Greenpeace, des ouais. fois, qui viennent, je pense, à Trio notamment, qui sont très...
Ils sont écolo, Trio,
ma grande réflexion, c'est le transport, en fait, parce qu'on fait on est des porteurs de messages, on va vers les gens. Donc la grande question, c'est le transport.
C'est comment aller d'un point A à un point B sans prendre l'avion.
Oui, moi je appelle à bon entendeur, je cherche des tourbus qui pollueraient moins ou des routings. Voilà, qui serait beaucoup plus éco-friendly, c'est-à-dire que surtout l'été avec les festivals, oui. c'est très difficile d'avoir, quand bien même on serait en train, mais le train est très fatigant. Hein. Voilà. Ça c'est mon grand...
Votre combat de demain,
voilà.
Ou d'aujourd'hui en tout cas. Camille, brillante comédienne dans Capitaine Marlowe, Une voix dans la nuit, ce soir sur France 3. Comment vous l'avez... Alors c'est délicat devant elle de le dire, José. Moi je l'ai trouvée, enfin j'ai... toujours aimé Camille artiste, mais là, je la trouve bluffante.
Moi, j'étais bluffée parce qu'en effet, j'ai aimé Camille artiste, chanteuse, compositrice, compositeur, enfin bon, bref. J'avais déjà trouvé formidable dans le film, encore une fois, d'Emmanuel Berco avec Catherine Deneuve, mais dans mon film, son personnage était très complexe et à la fois avec... des émotions qui devaient être contenues et j'ai trouvé formidable. Très bluffante.
Et finalement, de jouer sans avoir beaucoup de lignes ou beaucoup de textes, c'est ce qui est le plus dur aussi. C'est de faire passer par ses silences et par son comportement des messages.
On peut avoir un rôle formidable en ayant un rôle muet. Mais d'ailleurs, elle avait beaucoup de textes dans ce film-là. Parce que, vous savez, les téléfilms sont finalement, c'est ce qu'on pourrait leur reprocher, un petit peu bavard. Parce que, on considère que c'est pas un long métrage et que quand vous venez au cinéma, vous êtes assis dans une salle et théoriquement vous n'en partez pas. Et que quand vous êtes chez vous, il y a votre enfant qui pleure, il y a le chien qui aboie, il y a le téléphone qui sonne. Donc il faut vraiment, de façon très claire, expliquer un peu ce qui se passe. Bon, donc il y a du texte et elle en avait et elle était formidable.
Camille, vous avez déjà été animatrice de radio ?
Oui, une fois. Mais cette émission pour moi s'appelle toujours Le Fou du Roi, mais ça s'appelait déjà plus comme ça.
Avec Stéphane Bern ?
Bah non, c'était après.
Non, c'était à l'époque avec de Fred Lopez.
Voilà. Ah. Et en fait, il s'absentait pour une émission de télé et il a eu la bonne idée d'inviter des artistes à le remplacer. Et j'ai interviewé Emmanuel
Seigner.
De Vos.
Emmanuel De Vos.
Ici.
Elle a fait ça.
Dans le studio, voilà.
Ah non, mais c'était à France Inter, je veux dire, en tout cas.
C'était à France Inter.
Et c'était une douleur.
C'était tellement difficile d'interviewer. Quand l'autre te répond en une phrase, alors que tu pensais qu'il allait
développer,
t'as pas ta question suivante.
C'est pour ça que Nagui pose des questions qui durent une demi-heure. Même si tu réponds pas, c'est pas grave, on enchaîne.
Non, c'est un grand art.
Ce que je voulais savoir, c'est si là vous pouviez présenter un disque avec lequel vous êtes venu, un titre avec lequel vous êtes venu.
Ah,
je
oui.
pense que c'est à vous de le présenter.
Oui, José, je vous avais dit que j'avais écrit une chanson pour votre.
Mais oui.
Enfin voilà, qui s'appelle Une voix dans la nuit, inspirée par ce tournage et cette histoire. Et je l'ai enregistré au piano hier soir.
Oh bah c'est quel vous. Cadeau bah c'est merveilleux.
Tu démarres, elle inspire. Il est tard, son empire. Dans le noir, se tire. Elle envoie, et la vie, une voix. Dans la nuit.
cadeau.
Merci, mais quel cadeau.
Bravo.
C'est beau. Merci beaucoup.
Mais ce que ça veut dire, cette chanson. Ah bah oui, et puis alors c'est du sur-mesure. C'est une chanson qui peut se retrouver sur un futur album ou qui était...
J'en sais rien. Là, bah, c'était pour José. C'était pour l'occasion.
On vous a déjà fait un tel cadeau, José ? Incroyable.
Comme ça,
cadeau.
Non, jamais.
On a le temps de refaire le mixage pour la mettre ce soir dans l'épisode.
Ce soir, donc, Les Mots Bleus, c'est le générique de l'émission de radio, Une Voix dans la Nuit, Capitaine Marlowe, avec Camille, ce soir, évidemment, Corinne Maziro, pour ce nouvel épisode à 21h sur France 3. Le naturel, le talent, le sens de la répartie.
Oh, merci.
Non, je parle de Corinne Maziro. Dans Capitaine Marlowe, si c'est pour Daniel Morin, c'est marrant, c'est autre chose.
Bon, tout le monde voit qui est Charlize Theron.
Oui. Actrice.
Oui, mais Theron ici. Actrice sud-africaine, sublime, George, adore, c'est elle. Eh ben, elle vient de déclarer, ça fait 10 ans que je suis célibataire, quelqu'un a juste besoin de se laisser pousser une paire de couilles et faire le premier pas, je suis terriblement disponible.
Ouf.
Et toi, t'as,
Ok, c'est bon. Bah, j'y vais. Faut un volontaire. J'y vais. Je vous vois venir, bande de malfaisants, à tabler à mes côtés. Non, non, rien à voir avec le physique. C'est pour la bonne cause. Cette femme, Charlize, se sent, elle est fragile, elle est dans un état de grande précarité affective. Et bah, puisqu'autour d'elle, c'est égoïste et compagnie, et bah, je m'y colle, voilà tout. J'aime les gens, voilà, elle a besoin de moi, j'y vais, c'est pas plus compliqué que ça. Et je sais que ma femme comprendra, mais oui, elle sait très bien que si je pars en Afrique du Sud, vivre une aventure romantique et sale à la fois avec Charlize, c'est pas que ça m'amuse, c'est par pure charité chrétienne et conviction altruiste.
Absolument.
C'est mon côté Nagui. Bon, alors, en même temps, c'est pas un pays qui me fait rêver, hein, l'Afrique du Sud. Non, 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 non. Hein, le soleil, là-bas, tu bronzes pas, tu brûles. La mer est infestée de requins. Même au bord de l'eau, il y en a, il est féroce. Là-bas, quand on te dit, attention, rapidement, tu peux perdre pied, c'est au sens propre qu'on te le dit. Tu peux vraiment te faire bouffer les pieds par un requin. Mais je vais y aller quand même. Bon, je dis pas non plus que je vais l'épouser, la Charlize. Attention, je vais passer quelques mois avec elle, histoire de la réconcilier avec ce qui se fait de mieux en matière de relations amoureuses, à base de sentiments forts, de rapports sexuels hallucinants. Et parfois, oui, ok, de séances d'humiliation à connotation dégradante, mais ça fait partie des jeux de l'amour,
ça
c'est comme
pas.
Ça. Et comme le dit très justement Leïla, quand il y a des sentiments, c'est jamais sale. Oui, tu as raison, Leïla. Bien sûr, après, je rentre à la maison auprès de ma femme, je suis un mec fidèle, n'allez pas croire que je suis un fripon. Et puis arrêtez avec vos petits regards narquois, genre, elle se prend pour qui ? Jamais elle voudra Charlize Theron. Ah ben, contrairement à ce que vous pensez dans vos esprits tordus, je suis pas loin de penser que c'est plutôt elle qui serait gagnante si on se mettait en couple. Le charme à la française, le prestige France Inter, tout ça, je pourrais frimer. Elle serait là, oh, do you know Camille, the French singer ? Oh yes, I do, she's a good friend of mine. And do you know Christophe Maé, Claudio Capeo ? No, no, I don't, but I know someone who knows them very well. Et en même temps, si elle veut rencontrer Christophe Maé, Claudio Capeo, on n'a rien à foutre ensemble. Hein. Faut pas qu'elle déconne non plus, la Charlize. Je suis à deux doigts de la larguer si elle continue. Je veux bien être gentil, je veux bien dépanner émotionnellement, mais faut pas pousser. Hein. Je veux bien passer du temps avec toi, je veux bien partager avec toi aussi ma technique des mille et un plaisirs défendus, mais tellement bon. Tu le sais, je suis comme Björk, mon corps est un instrument, et on n'arrête pas un cheval au galop, ça a été dit. Mais n'abuse pas non plus. J'ai un ticket avec Lynn Renault, j'ai pas pris ma décision encore. Hein. Bon, je vous laisse, je vais quand même lui passer un coup de fil à Charlize. Hein. Débarquer comme ça à Johannesburg sans prévenir, ça se fait pas. Allez, à demain les amis.
Merci.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Semaine chargée pour José Dayan avec Capitaine Marlowe ce soir sur France 3, avec demain le Fred Vargas qui revient avec une histoire d'araignée qui serait à l'origine de meurtres en série, de règlement de compte. C'est en deux fois 90 minutes,
oui.
Donc c'est une
c'est-à-dire mercredi
gros projet.
C'est mercredi 17.
Demain, voilà, demain et le mercredi 17. Nous recevons d'ailleurs lundi Jean-Hugues Anglade pour venir en parler à ce micro, puisque c'est lui qui porte Adamsberg, qui porte le personnage. Là aussi, un casting de dingue. Hein, dans cette, on retrouve Corinne Maziro. Sylvie Testu, qui peut plus aller aux toilettes.
Sylvie Testu, c'est très beau personnage. Il y a Thierry Rancis, il y a Jérôme Kircher, il y a Elisabeth Depardieu, bien sûr. Il y a Jacques Bonafé, il y a Bernard Verlet, il y a Pierre Arditi, qui vient comme ça, avec amitié.
En pédopsie.
Il est psy, enfin il est plus psy puisqu'il est à la retraite et il est surtout là en
d'accord.
tant que témoin
d'orphelinat
de son père.
Je voulais pas raconter l'énigme. Voilà.
Et Benjamin Biolay qui fait la musique.
Et c'est Benjamin Biolay qui a fait la musique, et magnifique d'ailleurs, parce que j'ai écrit en lui disant que
on appelait toujours les musiques de films des musiques originales, et que pour une fois, ça méritait ce titre-là, cette appellation, parce que sa façon d'aborder la musique dans Vargas était particulièrement originale.
Avez-vous des rêves? Alors vous, on en est à quoi? À 17, 18 épisodes?
On vient de terminer le 17e avec Cadmerade, là, il y a deux jours.
Avez-vous des rêves?
Dans la Creuse.
Avez-vous des rêves d'une autre série, à part Capitaine Marlowe? Avez-vous des envies de...
Oui,
je vais
faire en début d'année 2020, en coproduction avec Dominique Besnéard, mon voisin production, deux films de 90 minutes pour France 2, Diane de Poitiers avec Isabelle Adjani.
Très bien.
Voilà.
Côté musique, on l'a entendu tout à l'heure avec ce cadeau, Camille a toujours le piano pas trop loin de ses doigts et de sa voix. Il y a ce duo Petite Fille du Soleil, Christophe, qui arrivera au mois de mai.
Le matin n'attend pas.
Réalisé par Clément Ducol, que vous penserez embrasser pour moi. Des projets de musique dans les mois qui viennent? On parlait de tournée d'été et de festival, justement. Est-ce que ça sera le cas cet été?
Je serai en ouverture du festival Jazz à Vienne avec un projet autour des work songs noires américaines enregistrées dans un pénitencier aux États-Unis dans les années 60 par Alan Lomax. Voilà, on part sur ces chansons-là, un espèce de... Le chant du cygne de l'esclavage, on va dire.
D'accord.
Un enregistrement exceptionnel. Et on part sur ce répertoire. Et puis, je viens de terminer une musique de film pour Géraldine Nakache. Et puis, je réalise un film que je suis en train de monter.
Le Gérer où tu iras?
Oui.
C'est vous qui avez fait la musique de Gérer où tu iras. D'accord. Le prochain film de Géraldine Nakache avec Leïla Bekti.
Voilà.
D'accord.
Et puis, encore plein de chansons.
Et votre film?
Oui, c'est un documentaire que j'ai réalisé sur une période de ma vie très particulière. Et je suis en train de le monter.
C'est quoi cette période de vie?
Ah, je vous en dirai plus quand il sera terminé.
Non, mais au moins l'âge, ça vaut le sens. Oh, ok, d'accord. À l'âge.
Oh, Camille.
La période de la vie, si vous dites que c'était à 20 ans, c'est pas, on sait pas plus.
Il n'y a pas très longtemps.
On sait pas plus. Ouais, voilà, 20 ans. Non. Rien, tu dis même pas merci.
Non.
Oh là là, je t'ai connu plus d'infos, hein, franchement. ce soir, donc, Capitaine Marlowe, des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien évidemment, déjà, désolé pour toi, pour Tom Villa. J'ai appris à la pause que dans le projet de José Daillon, pour toi, tu avais une scène de dîner à base de gras de jus de porc, de smoothie d'huître et de fromage de pruneau. Et t'as compris. Faudra tout manger. Désolé pour le sud-ouest et ses habitants qui sont sentis trahis par José Daillon. Oh, ça va, les gars. J'ai parlé avec Nagui à la pause et lui, il m'a dit qu'il détestait la région PACA et plus spécialement la ville de Dunkerque, ainsi que le Nord-Pas-de-Calais, sa capitale Bordeaux. Fin de citation. Bref, en gros, 100% de la province. Et désolé pour nos fidèles auditeurs qui ont été choqués en découvrant le CV de Camille et qu'on pouvait recevoir des invités cultivés ayant fait de grandes études. Ne vous inquiétez pas. C'est vraiment une exception. La preuve, jeudi, on reçoit Michel Simès.
Merci beaucoup, mesdames, d'être venues. Merci Camille, merci José Daillon.
Merci à vous.
Ce soir, rendez-vous avec Capitaine Marlowe sur France 3. Et demain.
Ça va zlataner.
Et oui, ça va zlataner. Demain, Sabine Azéma et André Dussolier seront nos invités pour Tanguy Le Retour. Bonne journée. Voici les carnets de commandes de Philippe Bertrand.